Longtemps, hein, il était parti pour une prédication, hein, c'était bien, hein, c'était bien. Le Seigneur m'a mis une drôle d'idée cette semaine. On en a parlé avec Arlette. J'ai posé la question à deux frères, dont un qui m'a dit hey, ça y est, t'as inventé un nouvel évangile. J'ai juste posé la question. Il lui dit bah, tu sais que tout le monde a la vie éternelle. Ah. Qu'est-ce que je n'avais pas dit là? Ah non, c'est pas vrai. Non, Jean 3,16. Oui, d'accord. Si je le dis comme ça, effectivement. Mais en fait, quand tout le monde a la vie éternelle. Vous y pensez au moins? Est-ce que c'est une hérésie ce que je dis? Ben non. Il y a la vie éternelle dans les tourments et il y a la vie éternelle dans la gloire de Dieu. Bien sûr, on peut faire une prédication. Parce que si je vous le dis comme ça, effectivement, ce n'est pas biblique du tout. Mais il faut l'expliquer. Mais je me suis dit, Seigneur, si tu me dis ça, c'est que tu veux me révéler quelque chose. Voilà ce qu'il m'a révélé, en fin de compte. Voilà ce qu'il m'a révélé. Et ça rejoint exactement ce que dit, ce que disait Emmanuel. Il faut faire très attention. Parce que c'est pas notre attitude qu'on a le dimanche, c'est pas notre attitude, et ça faut faire très attention, parce que on peut être couvert de religiosité, je dis bien couvert de religiosité, et être vide à l'intérieur, mais vide de Christ. C'est-à-dire que on va avoir une vie qui ne reflète absolument pas Jésus-Christ. Absolument pas. On croit vivre une vie de chrétien, mais on vit une vie du monde. On s'en va vers la vie éternelle dans les tourments. Conscient de notre état, grinçant des dents tellement c'est chaud. Tandis que si on vit selon l'esprit, on va vivre éternellement dans la gloire de Dieu. On est dans un monde qui nous endort. Vous savez, vous connaissez l'expérience avec la grenouille. Je crois que c'est Paul qui nous avait expliqué ça un jour. Vous mettez chauffer de l'eau, vous prenez une grenouille, vous l'achetez dedans, elle va sauter. Tout de suite. Ça, c'est le chrétien, celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Et puis vous avez le pseudo-chrétien qui, lui, est déjà dans la casserole d'eau froide et vous mettez le feu. Eh ben, vous allez rester dedans, puis vous allez sentir petit à petit que oh, c'est bien, c'est chaud, c'est... et vous allez mourir dans l'eau bouillante. Parce qu'on s'habitue. Parce que ben, l'environnement commence à nous plaire. Alors que dès le départ, on aurait dû sauter. Et le malin a cette faculté d'anesthésier le chrétien. Il anesthésie. Et le Seigneur m'a révélé même qu'il va au-delà de choses énormes. Il fait croire que même si on s'est éloigné de lui, il est impossible de revenir à Dieu. C'est incroyable, hein? Le malin va jusque-là, ce qui fait que le chrétien qui s'est éloigné ne fera même plus l'effort de revenir. Alors qu'on l'a entendu ce matin, « Revenez à moi !» C'est un ordre de l'Éternel des armées. « Revenez à moi !» Alors, on va essayer de voir le premier verset. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il n'y a rien qui fonctionne? Donc, je vais demander le premier verset. Voilà. C'est, à mon avis... Les deux, de 9 à 11, c'est les deux versets où il y a le plus de conditions. Il y a le plus de conditions. Si, pour vous, donc Romains 8, versets 9 à 11, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous voyez, Paul est clair, vous ne vivez pas selon la chair. Donc c'est une certitude. Mais selon l'esprit, et là où ça se gâte, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et c'est là, sincèrement, où on doit se poser des questions. C'est là où on doit regarder notre vie et on doit se dire, j'ai un doute. Mais on va en revenir. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu ne vis pas selon l'Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Vous allez voir, ça c'est une des conclusions de la prédication. Donc si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si, encore une nouvelle condition. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. La résurrection. La résurrection. C'est là où il faut faire la différence entre la vie éternelle dans les tourments et la vie éternelle dans la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est là où il faut bien faire attention. Alors, première question. Que signifie vivre selon la chair et selon l'esprit? Ça signifie quoi? Quand je vis selon la chair, c'est sous-entendu pas le corps, ça veut dire le péché. Je vis dans le péché. En fin de compte, c'est s'affectionner des choses de la chair. Y penser sans arrêt. Y aspirer, être bien dedans, n'avoir aucune... Voilà, je ne suis absolument pas gêné. C'est un peu ce que disait Emmanuel ce matin. Gloire à Dieu parce qu'il me donne la conviction de péché. Gloire à Dieu. Mais vous avez des gens, et parfois même des chrétiens. Moi, je suis atterré, quand j'entends que des chrétiens sont complotistes. Je suis atterré. Et tant pis, je le dis ouvertement. Je suis atterré. Je dis souvent, on doit être soumis aux autorités jusqu'à un certain point, tant que ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Le reste après, on est soumis aux autorités, point final. On nous demande de fermer l'église pour X raisons, ferme l'église. Vous comprenez ça? Et vous avez des gens, non, c'est tout et n'importe quoi. Ils arrivent dans les églises, ils sont chrétiens. Ils ont oublié une partie de la Bible quand même. Mais c'est ça. Ce que je vous ai dit, c'est dans ces choses-là où le malin endort les chrétiens. Donc c'est en fin de compte quelqu'un qui va penser, qui va aspirer aux choses de la chair. C'est ça, vivre selon la chair, vivre selon le péché. Le vrai croyant, si l'Esprit de Dieu est en lui, ça c'est le vrai croyant, ne vit que pour les choses qui viennent d'en haut, les choses spirituelles, les choses de la terre, il s'en fiche royalement. Parce que l'espérance, c'est pas avoir 20 centimes moins, 20 centimes plus, je veux dire, ou en moins à payer le carburant. Son espérance, c'est le retour de Jésus-Christ et la vie éternelle dans la gloire de Dieu. C'est ça son espérance. La parole nous dit bien qu'il ne faut pas s'inquiéter du boire et du manger. On est d'accord. Et vous avez des gens qui... Et ils viennent le dimanche et... C'est effarant. Donc, le vrai croyant, lui, il est préoccupé des choses d'en haut. L'incroyant, lui, il est préoccupé des choses d'en bas. Vous lui parlez de la Bible, et même parfois parmi nous. Ne faut pas se cacher les yeux. L'incroyant va voir ses intérêts personnels avant toute chose, sans tenir compte de Dieu. Parce que pour lui, Dieu, c'est trop loin. Soit c'est trop loin, ou soit il n'existe pas. Alors que tout être humain a la conscience de la présence de Dieu. Demandez à un gars, on dit souvent, Paul m'a toujours dit, il me faisait rire quand il me disait ça, il n'y a rien de plus, un athée, c'est celui qui a le plus de foi. Parce qu'il va tout mettre en œuvre pour vous prouver que Dieu n'existe pas. Il a une foi de dire que je crois tellement que Dieu n'existe pas qu'il va vous inventer plein de choses. Mais dans son fond, tout au fond de lui, il sait que Dieu existe. Parce que Dieu a donné cette faculté à l'homme de savoir qu'il existe. Donc, l'homme a conscience de l'existence de Dieu, mais il refuse. Il refuse d'être dominé. Parce que c'est vrai que vous le savez tous ici, que dès qu'on est à Christ, on n'a plus le droit de faire ceci, on n'a plus le droit de faire cela. Mais j'aurais plus le droit de faire ceci, mais j'aurais plus le droit de faire... Alors qu'on sait pertinemment que c'est faux. C'est simplement que le Seigneur nous montre qu'il y a d'autres priorités. Après, c'est à nous de choisir. Mais après, on va vivre selon la chair. Donc, ceux qui vivent selon l'esprit, eux s'affectionnent des choses d'en haut. C'est eux, comme disait Emmanuel, qui vont avoir la compassion pour les frères et sœurs. C'est eux qui vont être attentifs aux besoins des gens du monde. Parce que ils sont guidés par le Saint-Esprit. Ainsi, la chair et l'esprit sont toujours en conflit dans notre corps. Toujours. En Galates 5, 17, Lionel, c'est le verset suivant. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est l'Esprit de Dieu qui nous empêche de faire. Ce n'est pas qu'il nous empêche, c'est qu'il garde en nous cette conscience du péché. La différence, elle est là. Parce que pécher, on peut très bien pécher. Ça, c'est clair. Mais l'Esprit de Dieu nous garde en nous cette conscience du péché. Vous savez, on a conscience. On a peut-être mal agi un jour, et le lendemain, on est tracassé parce qu'on dit « j'aurais pas dû faire ça ». Et on demande pardon. C'est la repentance. « Seigneur, je te demande pardon parce que hier, j'ai agi. » Tandis que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'a aucune conscience, lui. Lui, c'est encéphalogramme plat. Voilà. Il fait, il vit et tout va bien. Le croyant a besoin de vivre et doit certainement vivre en étant contrôlé et alimenté sur le plan spirituel par l'Esprit. On doit être guidé par l'Esprit de Dieu. Quand on commence à faire des choses pour Dieu, parce que Dieu m'a dit, c'est-à-dire que c'est notre moi qui le fait, c'est pas Dieu. Et Dieu, souvent, n'est même pas dans l'entreprise qu'on a commencé. Et on le voit à quoi ? Parce que l'entreprise ne dure pas. Si l'entreprise vient de Dieu, elle durera. Si elle vient des hommes, elle s'éteindra. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que quand on fait quelque chose, il faut vraiment que ce soit posé sur notre cœur. Et on sent à ce moment-là un besoin d'y aller. Vous voyez ? On n'est pas poussé dans le dos parce qu'il faut que, mais on sent un besoin d'y aller. Voilà la différence. Donc chaque chrétien possède deux natures. Celle de la chair, qu'on reçoit à la naissance, et qui est issue d'Adam, l'homme, le premier homme déchu, d'accord ? Soit la nouvelle nature qu'on reçoit quand on est régénéré. Pas quand on est baptisé. D'accord ? J'insiste bien là-dessus. Pas quand on est baptisé, quand on est régénéré, né de nouveau. C'est-à-dire que le chrétien, on devient chrétien et on participe à la nature divine de Christ. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. La différence, elle est là. Si l'Esprit de Dieu habite en lui, c'était la condition. Mais si on est généré, l'Esprit de Dieu habite en nous. Si on n'est que baptisé, c'est pour ça que Jésus faisait la différence entre le baptême de Jean et le baptême de l'Esprit. Et Paul en a souvent parlé quand il écrivait aux différentes églises. Il faisait la différence. Mais de quel baptême as-tu été baptisé ? Baptême de l'eau, c'est une déclaration publique. Je reconnais que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Le baptême de l'Esprit, c'est Christ qui demeure en nous. Il y a des gens qui s'imaginent que quand on est baptisé, on reçoit l'Esprit. La Pentecôte, ils étaient en train de se faire baptiser ? Pas du tout. Vous comprenez la différence ? Et vous avez des gens, malheureusement, qui vont marcher selon la chair à cause de ça. À cause de ça, parce qu'ils ont une vision complètement erronée du baptême. Donc en 2 Pierre chapitre 1 verset 4, c'est le verset suivant. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est ce qu'on reçoit quand on reçoit Jésus-Christ. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, la vie éternelle, dans la gloire de Dieu. Afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine. Vous partagez la nature de Jésus-Christ. C'est ça, participants à la nature divine. Vous êtes héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Est-ce qu'on a déjà réfléchi à ça ? C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre une vie selon la chair et une vie selon l'esprit. Il doit y avoir cette scission. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est ce que je vous disais. Quelle vie on vit aujourd'hui ? Est-ce qu'on vit une vie en étant attentionné des choses d'en haut, ou est-ce qu'on vit la vie du monde ? Donc ici, dans ce verset, vous comprenez bien qu'il est question de vraiment vivre selon la nature de Jésus-Christ. La nature qu'on reçoit quand on reçoit son esprit. Le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de la religiosité, c'est le fruit de l'esprit. En fin de compte, la puissance divine de Christ qui habite en nous va nous fournir tous les éléments qui vont contribuer à vivre cette vie sainte. Cette vie de l'esprit, une vie de piété. Tout ce que le chrétien a besoin pour sa vie spirituelle, elle lui a été donnée dans l'esprit qu'il a reçu. On n'a besoin de rien d'autre. Rien d'autre que l'esprit de Dieu. Et Christ nous appelle justement à avoir cette piété. Christ nous appelle à avoir cette vie conforme pour sa propre gloire et pour sa vertu. Parce que si on fait un contre-témoignage, on blasphème le nom de Jésus-Christ. Si vous dites à quelqu'un « je suis chrétien » et qu'à côté il vous voit vivre comme les gens du monde, à votre avis, est-ce que vous n'êtes pas en train de blasphémer le nom de Jésus-Christ ? Ils vont dire « mais c'est ça être chrétien ? Ah ben moi je veux y être. » Est-ce qu'on s'assure la vie éternelle dans ces cas-là ? Et c'est la nature même de Christ, cette nature qui habite en nous, cette excellence morale, l'excellence morale qu'il avait, l'influence globale de la glorieuse personne qu'il était, ça influe sur notre vie, parce que c'est son esprit qui habite en nous. Est-ce que je vis sincèrement aujourd'hui cette vie-là? Est-ce que je vis cette vie-là? Il y a deux natures, on l'a vu, il y a deux natures qui sont en nous. On est appelé à faire mourir celle de la chair. On est appelé à la faire mourir. On est appelé à la faire mourir en laissant l'Esprit de Dieu prendre toute la place. Pas la première place, mais toute la place. On en reviendra après pour là-dessus. Donc les désirs sont complètement opposés. Complètement opposés. Et empêchent en fin de compte le croyant de faire ce qu'il voudrait. Et faire ce que le croyant voudrait, c'est souvent en opposition à la pensée de Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit écarte, lorsqu'il lui est permis, et c'est là que ça prend son importance, le Saint-Esprit écarte, lorsqu'il lui est permis, les mauvais désirs de la chair. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit se passer dans nos profondeurs. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure dans la prédication. Si je m'éloigne de la lumière de Dieu, automatiquement la chair va reprendre. Pensons à nos vies. On a tous connu un moment où on s'est un peu éloigné peut-être de Dieu, où on était moins chaud, on va dire. On a chanté tout à l'heure la tiédeur. Pensons à ces moments-là et on va s'apercevoir qu'effectivement, on a vécu une vie de patachon. Alors que Dieu était à côté et qu'il nous disait, mais reviens à moi, reviens à moi. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est bien beau, Pascal. Mais ça fait quoi de s'affectionner des choses de la chair? Et ça fait quoi de s'affectionner des choses de l'esprit? Montre-moi la différence. Si je vous pose la question, s'affectionner des choses de la chair, ça fait quoi? Je viens entre hors de terme vous l'expliquer un peu en gros. C'est la mort. C'est la mort. En fin de compte, elle est équivalente à la mort. Elle mène à la mort sous toutes ses formes, spirituelles et physiques. C'est ça, s'affectionner des choses de la chair. Et de l'autre côté, l'affection de l'esprit, c'est la vie. D'accord ? La vie éternelle et la résurrection. C'est une paix immédiate et définitive avec Dieu. Voilà la différence entre s'affectionner des choses de la chair et s'affectionner des choses de l'esprit. Si on vit selon la chair, on est appelé à mourir dans nos péchés. Même si on est dans cette église ce matin, hein, je vous le dis sincèrement. Si on s'affectionne des choses de l'esprit, c'est-à-dire qu'on laisse l'esprit agir en nous, faire son travail, prendre toute la place, à ce moment-là, on a une paix. Une paix qui s'installe. Une paix que personne ne peut acheter, personne ne peut produire, elle vient de Dieu. T'inquiète pas, tu sais où tu vas, parce que la parole te le dit. En Galates 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » On a la paix avec Dieu. Mais il y a une question qui me vient maintenant. Pourquoi l'affection de la chair mène à la mort? Parce que c'est facile, on pourrait dire, ben oui, mais pourquoi en fin de compte elle mène à la mort? Parce qu'elle est inimitié contre Dieu. Inimitié, c'est-à-dire qu'on est en train de démontrer à Dieu qu'on n'a pas la crainte de Dieu et qu'en fin de compte, on ne l'aime pas, tout simplement. En Romains, chapitre 5, verset 10, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc, en fin de compte, il faut simplement dire « Je crois en Jésus, alors. » Est-ce que c'est ça, sincèrement? Est-ce que c'est ça, venir devant tout le monde et dire « Ben voilà, je reconnais Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. » Est-ce que c'est ça, sincèrement? Est-ce que dans votre cœur, vous êtes en train de vous dire « Ben oui, c'est ça. » Ben non. C'est qu'une petite partie. Si vous commencez une randonnée, au bout de 500 mètres, vous arrêtez, vous dites « Ben, j'ai fait la randonnée de machin, ceci, cela, qui faisait 47 kilomètres. Est-ce que vous avez fait la randonnée ?» Ben non, vous avez fait 500 mètres de la randonnée. Vous étiez sur le chemin. Vous comprenez ? Vous étiez sur le chemin. Mais Christ nous appelle à connaître la vérité pour avoir la vie éternelle. Voyez la différence, elle est là. C'est que parfois, on a une idée, voilà, on se fait baptiser parce qu'on a déclaré « Oui, je reconnais Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur » et puis on s'assoit. La plupart des miracles, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et vous avez des chrétiens qui s'assoient parce qu'ils se sont fait baptiser. Alors que Jésus, dans tous ses miracles, disait « Lève-toi » ou « Avance ta main ». C'est ça la différence. C'est pas parce qu'on a déclaré « Oui, je reconnais Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur » qu'on a la vie éternelle. Ça serait trop simple. Ça serait trop simple. On va voir tout à l'heure, il y a un verset qui nous dit qu'on est des ambassadeurs de Christ. Qu'est-ce que c'est un ambassadeur? C'est quelqu'un qui représente un pays. Nous, on est ambassadeurs de Christ. On représente qui? Christ. Est-ce que je représente Christ quand je vis selon la chair? La différence, elle est là. Donc la réconciliation, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La réconciliation, c'est l'enlèvement de l'inimitié entre les hommes et Dieu. Cette inimitié est supprimée. L'homme peut se présenter à nouveau devant Dieu. En Romains chapitre 1, versets 21 et 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, entre guillemets, entre parenthèses, de Dieu, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, pardon, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si on le lit très rapidement, on va se dire « Bah oui, maintenant j'ai reconnu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, je suis réconcilié avec Dieu et je peux paraître devant lui. » C'est faux. Je vous ai toujours dit, et j'ai cette conviction, que lorsque Dieu nous regarde, si on a l'Esprit de Dieu, la première personne qu'il va voir, c'est Christ. Si, comme il est dit dans le premier verset, si vous avez l'Esprit de Dieu. Si on a l'Esprit de Dieu, quand Dieu nous regarde, il voit Christ. Pourquoi? Parce qu'on vit selon l'Esprit. C'est important de comprendre ça maintenant. Il est important de comprendre que quand Dieu va nous regarder, On sera réconcilié avec nous parce que quand il va nous regarder, il va voir l'Esprit de Christ en nous. Saint, irrépréhensible et sans reproche. Ce verset n'est pas en train de dire que on va plus pécher. Mais comme a dit Emmanuel tout à l'heure, quand on va pécher, on aura la conviction qu'on a fait quelque chose de pas bien. On va se mettre devant le Seigneur, on va demander pardon. On va demander pardon. Seigneur, je te demande pardon. J'ai agi comme un fou. Et il est tellement bon. Arlette l'a lu, qu'il va effacer le péché. Pourquoi ? Parce qu'il aura Christ devant lui. Parce qu'il aura l'esprit de Jésus-Christ, il va voir dans notre corps. Donc Christ est le fruit de la réconciliation, du rétablissement de la communion entre Dieu et les hommes. C'est lui seul qui permet ces choses. Lui seul. Et sans la réconciliation, l'homme demeure éternellement mort. Même si aujourd'hui vous êtes dans cette église, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous êtes éternellement mort. C'est clair. On relit le premier verset que j'ai mis, vous allez vite comprendre. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel l'a dit tout à l'heure, Romains 3, 23, c'est le verset suivant, Dionel. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Nul n'est parfait devant Dieu. Personne n'est parfait. On est sauvé par la grâce de Dieu. On n'est pas sauvé par ce qu'on fait. On n'est pas sauvé par ce qu'on est. Parce que vous avez des gens qui sont du monde, on a une belle sœur, elle est bonne, c'est une brave personne, c'est vraiment une bonne personne. Elle pourrait aider n'importe qui, elle ne regarde pas, mais elle ne connaît pas Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que l'affection de la chair mène à la mort. Si on n'a pas cet esprit en nous, on va toujours vivre selon la chair. Et j'en arrive au verset dont je vous parlais tout à l'heure, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20-21. C'est une certitude. Est-ce que vous le saviez, que vous étiez ambassadeur de Christ ? J'espère que oui, quand même. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu nous donnait des ordres. Ou nous exhorter par nous. Par nous. Vous imaginez, par nous. On est des envoyés de Dieu. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ce matin, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu ? Sincèrement, c'est la question que je dois me poser. Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu ? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amené à faire connaître la pensée de Dieu au monde par notre témoignage. C'est ça que ça veut dire. Et c'est la mort de Christ qui a permis ça. Ce n'est pas les versets qu'on va balancer à la figure des gens. Hein. Ce n'est pas les versets. C'est notre façon de vivre. Lorsque les gens viennent vous voir, vous disent « Mais José, pourquoi tu es comme ça ? Moi, j'aimerais bien être comme toi. Emmanuel, pourquoi tu te mets jamais en colère ? J'aimerais bien être comme toi. Mais Sophie, tu es toujours en train de rire, en train de sourire, alors que moi, des fois, j'aimerais bien être comme toi. Et pourquoi ? Pourquoi nos frères et sœurs sont comme ça ? Parce qu'ils ont l'Esprit de Christ qui leur donne la joie. Parce qu'ils savent où ils vont. Vous avez, dans les gens du dehors, combien vous entendez maintenant ? Oh, on a vécu les bonnes années parce que maintenant, on a vécu les bonnes années. Alors que nous, c'est l'inverse. On va vivre les bonnes années après, quand le livre sera refermé. Est-ce qu'on n'a pas soif de ça ? Est-ce qu'on n'a pas soif de savoir qu'on va passer peut-être 80, 90 ans, 100 ans sur cette terre, à se débattre avec le péché, avec le malin, peut-être, alors que l'éternité nous attend, la vie éternelle dans la gloire de Dieu, et pas la vie éternelle dans les tourments. C'est la vie éternelle dans la gloire de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas soif de ça ? Et tant, j'en reviens à la réconciliation, tant qu'il n'y a pas cette réconciliation, la mort règne sur l'homme sans arrêt. Comme si elle était un tyran, et d'ailleurs beaucoup meurent des conséquences du péché, de leur péché. Beaucoup en meurent. Il faut s'approprier personnellement par la foi. Par la foi. Pas parce qu'on entend, si, parce qu'on entend aussi, mais je veux dire, par la foi, oui, j'y crois. Quand je l'entends, j'y crois. Je sais que c'est vrai. Je sais que Christ a donné ma vie, sa vie pour moi. C'est ça, par la foi. C'est de dire, Seigneur, je veux vivre cette vie que tu m'as préparée. En Jean, chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » La réconciliation de Dieu va jusque-là. Être reconnu enfant de Dieu. Est-ce que ce matin j'ai la conviction d'être reconnu enfant de Dieu ? Alors maintenant, on va revenir au verset principal. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est une déclaration que Paul fait. C'est vraiment une déclaration. C'est comme s'il disait, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Vous n'êtes pas dans le péché, mais vous êtes dans l'esprit de Dieu. Noyé dans l'esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne vous voit plus. Dans les profondeurs de Dieu. Vous êtes dans les profondeurs de Dieu. On verra un verset qui en parle, justement. Le Saint-Esprit qui habite dans le croyant lui donne de vivre une vie totalement différente. Normalement, celui qui est régénéré doit vivre une vie totalement différente de ce qu'elle était avant. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit encore une fois, la parole nous dit en 2 Corinthiens 5, 17, il n'y a même pas besoin de le dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que les choses anciennes sont passées sur ma vie ? Est-ce qu'il y a eu cette coupure ? Quand Christ a dit sur la croix, tout est accompli, il a tout accompli. Et il a tout coupé. Il y a des gens qui vivent encore avec des soi-disant des malédictions qui viennent d'ancêtres, alors qu'ils sont en Christ. Ben non. J'ai tout accompli dans ta vie. C'est-à-dire qu'il a tout coupé et la nature est devenue nouvelle. Tu ne fais plus partie de cette famille terrestre. Aujourd'hui, tu es de la famille céleste. Tu fais partie de... Tu es mon épouse. On est une brique de l'édifice. On n'a plus aucune attache avec ce qui était avant. Donc ceux qui ont encore des choses comme ça dans leur cœur, alors qu'ils sont à Christ, il faut qu'ils se mettent réellement devant Dieu. Parce qu'il a tout coupé. À la mort, il a mis toute chose sous sa domination, c'est-à-dire qu'il a écrasé. C'est la femme qui a écrasé avec son talon. Il a écrasé. Donc le chrétien ne peut pas vivre dans son ancienne vie, car il vit aujourd'hui guidé par l'Esprit de Dieu. Il marche selon l'Esprit de Dieu et se comporte selon la pensée de Dieu. Quel programme ! C'est dur, hein ? Non ? Ben non, parce que c'est naturel. Les choses de Dieu deviennent naturelles. Je vais dire quelque part, on devient pour le monde la parole ouverte. C'est ça, être ambassadeur de Christ. On devient pour le monde la parole ouverte. Mais le contraire, et malheureusement, je suis obligé de vous le dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. D'accord ? Donc, enlevez dans la tête, parce que je suis baptisé, j'appartiens à Christ, enlevez-le tout de suite. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. C'est ce que le verset nous a dit. Et de ce fait, ben je ne peux pas marcher selon l'Esprit de Dieu. Alors, je marche selon quel esprit ? Oui, Alain. L'esprit du monde. Mais comment je vois que je marche selon l'esprit du monde ? Ben c'est simplement qu'il n'y a pas eu toute chose nouvelle dans ma vie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas eu toute chose nouvelle dans ma vie. Il n'y a eu aucune coupure entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie. Donc je ne marche pas selon l'esprit, mais selon la chair, puisque je n'ai pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit, c'est pas, il n'y a pas que l'esprit qui donne la vie éternelle. La vie spirituelle, pardon. Mais c'est Christ aussi. Donc celui qui n'a pas Christ en lui n'a pas cette vie spirituelle. On ne peut pas l'inventer. Si, on va l'inventer, on va la singer. Mais ça me fait penser à quelqu'un d'autre quand je parle de singer. Si vous voyez de qui je veux parler. Je peux singer une vie spirituelle. Et en Jean 3,6, c'est clair. Il n'y a pas besoin de... Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Esprit avec un grand E. Donc il doit y avoir, si vous n'avez pas eu cette nouvelle naissance, vous êtes toujours né de la chair. Si vous avez connu cette nouvelle naissance, ça veut dire une vie totalement différente, vous êtes né de l'esprit. Donc on sait maintenant qu'il y a deux domaines distincts. Celui de l'homme déchu, la chair, et celui de Dieu, l'esprit. Et l'homme déchu ne peut se régénérer lui-même, c'est impossible. Impossible. Si, je viens de vous le dire, il va singer. Singer, c'est l'image de Satan. D'accord ? Je vais vous le dire maintenant, c'est l'image de Satan. Tout ce que Satan fait, il singe Dieu, c'est-à-dire qu'il imite Dieu. Et les récits eschatologiques nous montrent qu'il fait exactement comme Dieu a fait et mais pour une autre raison, pour emmener tout le monde dans la mort éternelle. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut régénérer l'être humain. Il n'y a que la présence de cet esprit qui peut régénérer notre nature. Et nous pouvons donc déclarer maintenant que la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant identifie réellement qu'il est en Christ. Waouh ! La présence du Saint-Esprit identifie réellement le croyant comme étant en Christ. Celui qui n'a pas l'esprit, Dieu ne le reconnaît pas. Donc je marche selon la chair. 1 Jean, chapitre 3, versets 23 et 24. Ici, c'est son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. C'est-à-dire, celui qui applique la parole de Dieu demeure en lui. Celui qui reste sous la lumière de Dieu demeure en lui. Et bien sûr, Dieu demeure en lui. Donc, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Esprit avec un grand E. La parole aurait pu continuer en disant par l'Esprit et la vie qu'il nous a donné. Si on rattache, on surprend différents versets et on en vient à la même conclusion, que celui qui a l'Esprit de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas l'Esprit a la mort. En 1 Jean chapitre 4 verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Je vous ai toujours dit, quand vous lisez les épîtres de Jean, vous savez exactement si vous êtes chrétien ou ne l'êtes pas. La conclusion. Tout dans ce monde est fait pour nous asservir. Tout. Pour nous éloigner de Dieu. Satan a cette faculté de nous faire croire que nous sommes chrétiens. Il a la faculté de nous faire croire que nous sommes chrétiens. Il entretient notre mort éternelle. Parce qu'en faisant ça, on ne se remet jamais en question, on se ne remet jamais devant l'Éternel, en lui disant « Seigneur, j'ai péché contre toi ». Comme David a fait. J'ai péché contre toi. Il entretient cette image du bon chrétien avec un petit C, alors qu'on ne l'est pas du tout. Est-ce qu'on marche dans les ténèbres ce matin? Est-ce qu'on marche selon la chair? Est-ce qu'on marche selon les principes du monde, selon l'esclavage de ce monde? Est-ce que j'ai reçu cette nouvelle vie? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai reçu cette nouvelle vie ce matin? Est-ce que j'ai reçu cette nouvelle vie? Est-ce que je dois vous le répéter? Recevoir, ce n'est pas prendre le baptême. J'insiste, sincèrement, je suis en train de lire un bouquin justement qui parle de ça. Que le malin est en train d'endormir, a endormi beaucoup de gens sur cette, rien que ça. On dit prendre le baptême, on prend. Mais est-ce que j'ai reçu? Est-ce que j'ai reçu de Dieu cette nouvelle vie? Est-ce que j'ai reçu de Dieu le pardon de mes péchés? Il y a une sacrée différence quand même. Hein, parce que mon moi peut donner. Mais quand je reçois, ça vient du Créateur, ça vient de Dieu. Est-ce que j'ai accepté la scission d'avec mon ancienne vie? Tout ce qui faisait que j'étais ceci, que j'étais cela. Et c'est souvent le problème, je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'on a toujours en nous cet ego. Cet ego qui nous rend aveugles sur la réalité des dégâts occasionnés de la vie qu'on mène sur notre terre. On n'est pas conscient de la vie qu'on mène. Parce qu'on va le dimanche à l'église, parce que peut-être on lit un ou deux chapitres tous les jours. Mais je vous rappelle, ça fait partie de la stratégie de Satan. Parce qu'il empêche un jour, comme ça, qu'on prenne conscience. Ben non, j'ai jamais reçu la vie de Dieu. je n'ai jamais réellement, je me suis jamais réellement repenti de mon ancienne vie. Et pourtant, je croyais que, devant Dieu, on ne pourra jamais dire, Seigneur, je pensais que Dieu va nous dire, écoute, je ne te connais pas. Peut-être qu'on se pose cette question, justement, ce matin, ai-je reçu l'Esprit de Dieu ? C'est pas moi qui vais répondre. C'est pas moi qui vais y répondre. Il faut, comme j'ai dit, se placer devant l'Éternel, le supplier. Mais le supplier de quoi ? De connaître la plénitude de l'Esprit. La différence, elle est là. C'est pas, Seigneur, j'en veux qu'un petit peu. Je veux tout. Remplis-moi de ton Esprit. En Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur. » Fortifié par son Esprit. Il n'est pas fortifié par votre présence à l'Église. Fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ce verset résume tout ce que je viens de vous dire. Afin qu'étant fondés, enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, comprendre la pensée de Dieu, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, afin que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Je crois que c'est le seul verset qui parle de la plénitude ici. Connaître la plénitude de Dieu dans sa vie. Est-ce qu'on a soif de ça ce matin ? Est-ce que j'ai soif de connaître ? Seigneur, je veux être rempli. Je ne veux pas qu'un petit peu, je veux tout. Alors il y a deux choses. Je vais terminer par ces deux choses. Romains 13, 13. Aujourd'hui, si tu marches selon la chair, la parole te donne un conseil. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. C'est ce qu'on doit fuir. La grenouille, vous savez, au départ, dans l'eau bouillante, elle saute. Et la mise en garde, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10, ça c'est la grenouille qui est dans l'eau. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, c'est une mise en garde. Coco, t'as beau te présenter à l'église, si tu vis comme ça, je ne te connais pas. C'est clair. C'est clair. Vous comprenez la différence entre dire aux gens, oui, je reconnais Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et s'arrêter, et la personne qui dit, oui, Seigneur, je veux être rempli. Et qu'il l'est. Parce que sa vie, elle va être à l'ouest de ça. Complètement à l'opposé de ça. Elle va être dans la pensée de Dieu. On va marcher selon l'Esprit de Dieu et plus selon la chair. Parce que c'est les choses de Dieu qui seront prioritaires et pas les choses de ce monde. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a interpellé sur la vie éternelle. J'ai compris à ce moment-là pourquoi le Seigneur m'a interpellé sur la vie éternelle. Et que ce n'est pas une hérésie de dire que tout le monde va connaître la vie éternelle. Mais moi, je vous ai expliqué maintenant comment vous allez connaître la vie éternelle dans la gloire de Dieu. Comment ? Je veux être rempli de ton esprit. Je veux connaître cette nouvelle vie. Parce que sinon, vous allez connaître la vie éternelle dans les tourments. La différence est là. Même si vous êtes dans cette église, et quand je me prêche aussi, hein, même si on est assis là dans cette église, ou dans n'importe quelle église, hein, réfléchissons, méditons peut-être, réécoutons si vous voulez. C'est pas moi qu'il faut écouter, c'est que je glorifie vraiment le Seigneur de nous mettre en garde. Vous écoutez la prédication d'Emmanuel la semaine dernière et vous écoutez celle-ci. Et vous faites le point sur votre vie. Faites le point sur votre vie. Je crois que on ne peut pas nier que le livre est en train de se refermer. Mais comme je dis, le bras de Dieu ralentit la fermeture parce qu'il veut encore sauver aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est dans cette église qu'on est sauvé. D'accord ? Qu'on est forcément sauvé. Je vais le dire comme ça parce que... Ok ? C'est vraiment si j'ai connu cette nouvelle vie. Si aujourd'hui je marche selon l'Esprit de Dieu, oui. Et comment je sais que je marche selon l'Esprit ? C'est parce que je sens l'Esprit qui m'alerte. Comme disait Emmanuel, quand j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien... Que ça ne va pas, que je me mets devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Là, je sais que je marche selon l'Esprit. Mais si c'est le sang de Christ qui va me protéger, comme j'ai déjà entendu. Si vous marchez comme ça, c'est la vie éternelle dans les tourments. Voilà, je vais vous laisser sur cette pensée. On va prier. Merci Seigneur parce que tu nous fais la grâce de nous interpeller, Seigneur. Seigneur, que chacun ici prenne conscience d'être rempli de ton esprit. Seigneur, même si on boite, Seigneur, on ne marche pas selon ton esprit. Seigneur, pour marcher selon ton esprit, il faut être rempli de ton esprit, Seigneur. Il ne faut pas être rempli de religiosité. Seigneur, que la douceur de ton esprit puisse venir, entrer dans les cœurs, Seigneur. Y apporter même une petite lumière, Seigneur, dans les cœurs qui sont fermés. Dans les cœurs qui sont remplis de péché, qu'il apporte juste une petite lumière. Seigneur, que chacun, nous puissions être attirés par les choses d'en haut. Que chacun, nous puissions être remplis des choses d'en haut. Et pas remplis, Seigneur, de choses qui ne vont pas satisfaire notre vie. Seigneur, tu es tout pour nous. Christ, tu t'es donné pour nous. Tu n'as pas essayé de discuter. Tu es allé jusqu'au bout. Et Seigneur, tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Tu as accompli, Seigneur, ce qu'aucun homme ne peut accomplir. Tu as coupé, Seigneur, les liens. Et Seigneur, tu demandes aujourd'hui que nous puissions vivre cette nouvelle vie dans ton esprit, Seigneur. Seigneur, je le réclame pour mes frères et sœurs ici présents, que tu puisses leur montrer la puissance de ton esprit dans leur vie, Seigneur. Qu'ils en soient noyés, Seigneur, au point de t'appeler au secours, parce qu'ils ne comprendront pas ce qui leur arrive. Seigneur, que tu puisses les noyer chacun de ton esprit. Remplis-les. Remplis-les, Seigneur. Qu'ils puissent connaître cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie en toi, Seigneur. Et qu'ils puissent y demeurer, Seigneur, comme toi tu demeures en nous. Je te rends grâce, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.